Catherine, le matin.
Que l'amour ici se lève. Que l'amour ici se lève.
Il est chroniqueur spécialisé en actualité religieuse. Vous l'entendez souvent sur nos ondes. C'est toujours le même bonheur de le rejoindre. Salut Alain.
Bonjour Catherine. Est-ce que je peux faire un petit rectificatif dans tes ouverts fermés pour aujourd'hui?
Qu'est-ce que j'ai dit de pas correct? Là? Je me suis mêlé encore.
T'en as oublié un fondamental.
Vas-y.
Aujourd'hui, oui. Il n'y a pas de messe dans les églises.
Il n'y a pas de messe?
Le Vendredi Saint, il n'y a jamais de messe dans les églises.
Ah, OK.
Ça, t'as oublié de le dire. Je pense qu'il fallait le dire en partant pour le Vendredi Saint.
Absolument. Hey, on peut-tu faire le point sur quelque chose d'autre avant,
oui.
OK? Parce que je pose ça à la meilleure personne. Là, hier, avec des collègues, je suis un peu obstinée sur le carême. Parce que là, le carême, ça part du mercredi des cendres. Donc là, j'ai regardé cette année, ça débutait le 6 mars. Mais il y a quelqu'un qui me disait, le carême, ça, c'est jusqu'à Pâques. Mais c'est faux, c'est 40 jours, le carême, c'est bien ça?
Oui,
okay, alors,
t'as une quarantaine, parce que Jésus était 40 jours dans le désert.
C'est ça. Alors, ce qui veut dire que si je calculais, le carême, il s'est terminé cette semaine, là. C'est terminé.
Oui, théoriquement, ça se termine demain.
Ah, OK. Bon.
Samedi. Oui, mais ça dépend de l'heure. Parce que dans les temps très anciens, mais encore plus anciens que moi, là, mais pas si anciens que ça, on commençait à déballer les cadeaux de Pâques, les cocos, tout ça, le samedi. Parce qu'on est dans la veillée pascale, et dans la veillée pascale, c'est là où est arrivé le miracle de la résurrection de Jésus qui est devenu le Christ.
Oui.
Donc, comme on ne sait pas exactement le moment... Dans le temps, là, quand je dis dans le temps, on va parler des années 20 dans les années 30, nous, plus âgés de nos auditeurs actuellement. Ben pour eux, c'était le samedi matin où on déballait, puis c'était fini le carême.
OK. Bon. Alors,
par la suite, ça s'est déplacé à la veillée pascale, mettons dans mes années à moi, qui est le samedi soir.
Oui.
Et là, la veillée pascale est revenue et les cloches reviennent. Parce qu'aujourd'hui aussi, oublie pas, c'est congé de cloche hein, dans les églises.
Fait congé de cloche, congé de messe.
Congé de cloche, congé de messe. Et le cierge pascal est éteint. Et sur les croix, on met un drap mauve, violet, je me mélange toujours entre le violet et le mauve, sur Jésus.
OK.
Parce que c'est ça c'est important. Il n'y en a pas le Vendredi Saint.
Bon, parfait.
Fait que c'est ça. Donc, et par la suite, dans une époque postmoderne, ça veut dire les gens de ton époque, ben eux, théoriquement, ils vont cesser le carême le dimanche. Mais en pratique, il n'y a plus vraiment de carême depuis une bonne 30-40 ans.
Ouais.
Mais les gens vont jeûner le Vendredi Saint.
Oui, c'est ça, exact. Ça, je constate que dans certains cas, moi, ma mère, tu vois, le vendredi, elle continue, elle fait pas de viande.
Pas de viande.
Ben voilà.
C'est du poisson.
Bon, on peut
dire. Et la tradition, c'est maintenu.
Et voilà. L'origine du Vendredi Saint, Alain, si on commence par ça.
Oui, l'origine du Vendredi Saint, évidemment, c'est toujours, ça se perd dans la nuit des temps. Ce qui est important de savoir, quand Jésus meurt, ressuscite, à ce moment-là, il y a pas de messe parce que Jésus était un rabbin, il était juif à cette époque-là. Donc, c'est par la suite, les apôtres, on pense que c'est Saint Paul. Saint Paul écrit, quoi, peut-être 10-15 ans après la crucifixion, la résurrection. Et là, la première chose qui passe, c'est évidemment le message pascal de la résurrection. Là, on pense que dans les anciennes origines, on a commencé à célébrer le vent, si on peut plus ça célébrer, le Vendredi Saint dans les années 300 à Jérusalem.
Mm-hmm.
Par la suite, ça a pris 325, le concile de Nicée pour... c'est ça, celui de Nicée, parce que je mélange toujours avec celui de Constantinople qui est une couple d'années plus tard. À Nicée, c'est là où on a dit « Voici la date de Pâques ». Donc, on a commencé, déjà en 325, on a commencé à s'orienter sur Pâques.
Ah oui.
Les premières grandes cérémonies, c'est à Rome, on parle des années 600 à 700, où là, on a commencé à faire des cérémonies exprès pour le Vendredi Saint. Et puis ça s'est développé jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une longue évolution, parce que quand une religion se crée comme le christianisme, on n'arrive pas du jour au lendemain, voici la messe, puis ça va être en latin, puis voici, je vois ça.
Non.
C'est vraiment des évolutions qui font qu'aujourd'hui, le Vendredi Saint est quand même assez structuré.
Mm-hmm.
On a régulièrement dans tous les pays du monde, on a des processions. Là, on va se promener dans les rues, on va faire le chemin de croix.
Oui.
Le chemin de croix, on le fait à Jérusalem, on le fait à Rome, on le fait dans à peu près, on le fait à Trois-Rivières.
Ben oui, ça se fait encore. Moi, je me souviens, Alain, quand j'ai commencé à faire de la radio il y a une quinzaine d'années, une de mes premières couvertures journalistiques, c'était un chemin de croix.
Oui, et il y en a un important qui va avoir lieu cet après-midi, un chemin de croix. Tout le monde l'attend, celui-là. Celui de Paris.
Ah ben oui, évidemment.
Parce que Monseigneur Aupetit, qui est l'archevêque de Paris, il dit oui, il va avoir un chemin de croix qui va avoir lieu. Et là, j'ai regardé dans des médias, mais là, on va essayer d'avoir la confirmation. La fameuse... comment t'appelles ça? La couronne d'épines qu'on a sauvée miraculeusement dans un cylindre, tout ça. Il semblerait qu'on va la montrer lors de la procession.
Ah oui.
Fait que ça va être à voir. Fait que à 3h heure de Paris, on va le savoir. Ça veut dire ici, peut-être aux alentours de 9h ou de 10h heure de Montréal, on va savoir si effectivement c'est présent. Mais moi, je m'attends que pour le chemin de croix de Paris cette année, en raison évidemment de l'incendie qui a détruit la cathédrale, ça va être un événement là, qui va être extrêmement couru aujourd'hui la symbolique, la charge.
Mais donc, si on parle de Rome, à Rome, Alain, c'est le pape qui fait un chemin de croix qui se termine au Colisée, c'est ça?
Oui, toujours au Colisée. C'est que le Colisée, le lieu des martyrs, des chrétiens qui étaient jetés au lion, qui ont été martyrisés sous l'Empire romain, jusqu'à ce qu'il y ait le fameux dans les années 380 à Constantin, là où on arrive, parfait, ça va devenir la religion de l'Europe, ça va devenir la religion de l'Empire romain. Ben là, les chrétiens étaient persécutés et on amène une croix pour symboliser tous ces martyrs chrétiens. Ben il y a toujours une croix quand tu vas au Colisée de Rome, il y a toujours la croix qui est là, qui est excessivement simple. Et le parcours du pape, son chemin de croix, lui, se termine toujours au Colisée. Il y a évidemment tous les discours pour respecter tous les martyrs chrétiens qu'il y a eu au travers de toutes les époques.
Alain, je termine avec une question qui est provenue d'un auditeur cette semaine qui s'intéresse beaucoup à l'histoire. Puis on parlait de Notre-Dame de Paris, puis il me posait la question, il dit « Catherine, pourquoi le président Macron cherche tant à trouver des partenaires financiers? » Tu as une explication très simple à ça, Alain.
Très, très simple. Et là, Catherine, on va faire un petit peu d'histoire.
Oui.
1789, sous la Révolution française, tu as la République. La République, tu sais où on avait changé tout le nom des années, même le nom des mois.
Oui.
Ça s'appelait, tu avais le mois de ventose pour le vent, le mois fluviose, niveau ça. Et ce qu'on a fait, on a exproprié tous les biens d'Église pour financer les dettes de l'État. Par la suite, on a fait une entente en 1801 ou 1805, là, je me souviens plus exactement de l'année, avec le pape Pie VII. Et là, on a dit au pape Pie VII, on garde nos propriétés de nos cathédrales. En contrepartie, on va payer les prêtres et c'est à nous. Et par la suite, il y a eu le grand concordat de 1905, la séparation de l'Église et de l'État. Et là, on a rappelé que les cathédrales appartiennent à l'État français. Et l'État, et c'est à l'article 14, ça me fait toujours rire, est tenu des grosses réparations.
Ah.
Moi, quand je vois grosses réparations dans un texte de loi, je me dis, c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc, la cathédrale Notre-Dame de Paris appartient à l'État français. Et il est responsable des grosses réparations. C'est pour ça que tu n'as pas vu le Vatican ou l'archevêché de Paris dire « on a besoin d'argent ». C'est certain qu'ils vont contribuer pour les reliques. Pour ce qui s'appelle tout le cultuel, c'est certain que les paroisses ou la paroisse de Paris va dire « bon, ben il faut remplacer ce qui a été détruit ». Et ça, ils vont le faire. Mais au niveau du bâtiment comme tel, de la cathédrale, c'est de la responsabilité de l'État. Et c'est ainsi depuis longtemps, parce qu'on l'a rénové.
Ouais.
1836, quand c'était pratiquement des ruines après la Révolution française, on a pris des architectes, je me souviens plus, c'est Violet, je sais pas quoi, là.
Ouais.
Et lui a fait les rénovations à cette époque-là. Et tout ça, on l'a grâce à Victor Hugo. Victor Hugo qui a écrit Notre-Dame de Paris, justement parce que lui, il voulait sauver la cathédrale. Et là, tout le débat qu'on avait en 1830, revient aujourd'hui, parce que là, c'est la question, est-ce qu'on refait du 9 à 0?
Ben voilà.
Est-ce qu'on rénove avec les méthodes qu'on a? Mmh. Est-ce qu'on rénove avec les méthodes actuelles?
Ben, c'est ça.
Un beau débat de 5 ans.
Absolument. Hey, je termine avec une dernière question qui vient d'un auditeur, Gabriel, qui nous écrit. Il dit, pourquoi on dit Vendredi Saint alors qu'on parle du meurtre d'un homme qui n'a commis aucun crime que de dire la vérité aux autorités? Et autre question pour M. Pronkin. Comment explique-t-il que la date du décès change à chaque année? Si vous mourrez le 10 janvier, pourquoi changer la date à chaque année?
Au niveau des fêtes liturgiques, c'est différent. Quand on a établi ça en 325, on voulait une date qui soit facile à reconnaître parce qu'on était dans des calendriers lunaires. Donc, on a dit, c'est toujours le premier dimanche qui suit la pleine lune qui elle-même suit le 21 mars, le fameux début du printemps. Donc, si le 21 mars arrive, mettons que le 22, il y a une pleine lune, ben théoriquement, on peut avoir une Pâque le dimanche suivant. Ça peut être, je pense, le plus tôt le plus tôt, je pense, autour du 25 mars, puis ça peut aller plus tard. Donc, c'est par rapport au calendrier lunaire. Ouais. Et c'est la même chose au niveau de la Pâque juive. On pourrait parler de la Pâque juive pendant une heure aussi, parce que Pâque, ça veut dire un rite de passage. Et chez les Juifs, c'est toujours le calendrier lunaire. C'est pour ça que le vendredi saint, Jésus a été crucifié durant la semaine de la Pâque juive aussi. C'est pour ça que les deux fêtes sont toujours simultanées.
OK. Bon, on a une chance que tu es là pour nous instruire ce matin. Hey, un gros merci.
Je sais.
Alain,
c'est toujours... Bienvenue, Catherine.
Hey, merci beaucoup, Alain. C'est toujours un plaisir. Salut, bye-bye.
Bienvenue, bonne journée.
Alain Pronkin, chroniqueur spécialisé en actualité religieuse. Alors, j'espère que c'est toujours intéressant de l'entendre. Moi, à chaque fois, j'en apprends beaucoup.